8. De l'amélioration des mœurs. Chapitre 8. 2. Essai sur les limites de l'action de l'État. Par Wilhelm von Humboldt, 1767-1835. Traduit de l'allemand par Henri Chrétien en 1867. Les lois et les prescriptions isolées sont le dernier moyen dont se servent habituellement les États pour tenter une réforme des mœurs adéquate pour atteindre leur but final, qui est de promouvoir la sûreté. Mais comme c'est là un moyen par lequel la moralité et la vertu ne peuvent être promues directement, ces prescriptions isolées doivent nécessairement se borner à défendre ou à déterminer des actions séparées, qui sont ou immorales en elles-mêmes, sans toutefois porter atteinte aux droits d'autrui, ou conduisent trop facilement à l'immoralité. C'est à cette catégorie qu'appartiennent surtout toutes les lois limitant le luxe. En effet, il n'est incontestablement rien qui soit une source aussi abondante et aussi commune d'actes contraires à la morale, et même à la loi, que l'excès de sensualité dans l'âme, ou que la disproportion entre les penchants, les désirs en général, et les moyens de satisfaction offerts par la situation extérieure. Quand la tempérance et la modération font que l'homme se contente du domaine dans lequel il lui a été donné de se mouvoir, il cherche moins à les abandonner, ou au préjudice des droits d'autrui, ou au détriment de son propre contentement et de sa félicité. Par suite, il semble qu'il soit conforme au vrai but de l'État de maintenir, dans les limites convenables, cette sensualité, de laquelle naissent réellement toutes les collisions entre les hommes, tandis que l'harmonie générale peut subsister là où les sentiments intellectuels dominent. Il semble que l'État doive étouffer, autant qu'il est possible, cette sensualité, car c'est là le moyen qui paraît le plus simple pour obtenir ce résultat. Toutefois, pour rester fidèle aux principes exposés jusqu'ici, suivant lesquels il faut toujours examiner à la lumière des véritables intérêts de l'homme les moyens dont l'État peut user, il sera nécessaire d'analyser davantage, autant que cela pourra servir à notre dessein, l'influence de la sensualité sur la vie, l'éducation, l'activité et le bonheur de l'homme. Cette recherche, en cherchant à dépeindre en général le moi intérieur de l'homme actif et jouissant, montrera en même temps avec plus d'évidence comment toute réglementation lui est nuisible et la liberté salutaire. Seulement quand cela sera fait, nous pourrons juger, dans sa généralité la plus étendue, la compétence de l'État d'agir positivement sur les mœurs des citoyens et clore cette partie de la solution du problème posé. Les impressions sensitives, les penchants et les passions, voilà ce qui apparaît et s'exprime tout d'abord et avec le plus de vivacité chez l'homme. Quand elles se taisent, avant que la culture ne les ait embellies, ou n'ait donné à l'énergie de l'âme une autre direction, c'est que toute force est éteinte. Et alors rien de bon ou de grand ne pourra jamais se développer. Ce sont les impressions sensitives et les passions qui, au moins dans un premier temps, donne à l'âme la chaleur et la vie, et l'encourage à la vraie activité. Elles mettent dans l'âme la vivacité et des ressorts vigoureux. Si elles ne sont pas satisfaites, elles rendent actifs, ingénieux à concevoir des plans, courageux pour les exécuter. Si elles sont satisfaites, elles rendent le jeu des idées plus facile et plus libre. En général, elles donnent à toutes les conceptions un mouvement plus ample et plus varié. Elles ouvrent de nouveaux horizons, elles conduisent à des aspects jusque-là inconnus ou négligés. Sans compter comment les différentes manières de satisfaire les passions réagissent sur le corps et l'organisation, de même que celles-ci à son tour réagissent sur l'âme d'une manière qui toutefois ne devient visible pour nous que par ses résultats. Toutefois l'influence des passions est variable, et dans son intensité, et dans son mode d'action. Cela provient en partie de leur force ou de leur faiblesse, en partie encore de leur parenté avec le monde non sensuel, si je puis ainsi parler, de la facilité plus ou moins grande de les élever de la volupté animale aux joies humaines. C'est ainsi que l'œil rend la forme des objets matériels qu'il perçoit, et que l'oreille rend la série harmonique des sons si riches, pour nous en jouissance, et si féconde en idées. On pourrait peut-être dire beaucoup de choses belles, et des choses nouvelles, sur la nature diverse de ces sensations, et sur leur mode d'action. Mais ce n'en est point ici le lieu. Seulement une observation sur leur utilité diverse pour le progrès de l'âme. L'œil, si j'ose ainsi parler, livre à l'entendement une matière mieux préparée. Le moi humain nous est pour ainsi dire, déterminé avec sa forme extérieure, et avec la forme de toutes les choses que notre imagination rattache toujours à lui. Il nous est présenté dans un état donné. L'ouïe considérée uniquement comme sens, et tant qu'elle ne perçoit pas de mots, permet une précision beaucoup moins importante. C'est pour cette raison que Kant accorde aux arts plastiques la priorité sur la musique 19. Lefkurli Bracket. 19 Critiques du jugement, 2e édition, Berlin, 1793, pp. 220 et suivant. Or, il observe avec beaucoup de justesse que la préférence dont il parle suppose chez l'homme le critère de cette culture que les arts procurent à l'âme. Et je voudrais ajouter la culture qu'il lui procure directement. On se demande toutefois si c'est là le vrai critère. Selon mon idée, l'énergie est la première et l'unique vertu de l'homme. Ce qui augmente son énergie est plus précieux que ce qui ne fait que lui fournir matière à exercer cette énergie. Mais comme l'homme ne ressent qu'une chose à la fois, ce qui agit le plus fortement sur lui est ce qui n'offre qu'un objet unique à ses facultés sensitives. De même dans une suite d'impressions qui se succèdent les unes aux autres, et où chacune puise de la force dans celle qui la précède et en donne à celle qui la suive, la similitude des rapports existants entre les éléments séparés est ce qui agit le plus énergiquement. Or tout ceci est le cas de la musique. De plus, cette succession est entièrement propre à la musique. C'est seulement en elle qu'elle se trouve nettement accusée. La série qu'elle présente n'impose pas, à vrai dire, une impression déterminée. C'est comme un thème sous lequel on peut mettre un nombre infini de textes. Ce que l'âme de l'auditeur met effectivement sous la musique, si seulement celui-ci se trouve dans un état d'esprit semblable, du moins concernant le caractère général de l'œuvre, cela naît librement et sans entrave de la plénitude propre de son âme. Aussi saisit-elle incontestablement avec plus de chaleur ce thème que ce qu'on lui donne du dehors, et dont la perception le préoccupe plus que la sensation. Je négligerai ici les autres particularités et les autres avantages de la musique, par exemple le fait que, comme elle tire des sons harmonieux des objets naturels, elle reste bien plus près de la nature que la peinture, la plastique ou la poésie. Car ce qui m'importe, ce n'est pas vraiment d'examiner ici la musique et sa nature même, je veux seulement m'en servir comme exemple pour mieux mettre en lumière la nature diverse des impressions sensitives. Maintenant, le mode d'action qu'on vient de dépeindre n'est pas propre à la musique seule. Kant 20, Lefkurli Bracket. 20 Critiques du jugement, p. 211 et suivant. Right, Kurli Bracket. Observe qu'il est possible de le rencontrer dans la combinaison des couleurs. Et il se trouve bien davantage encore dans ce que nous ressentons par le tact. Même dans le goût, il est impossible de ne pas reconnaître ce mode d'action. Il y a aussi dans le goût une progression du plaisir tendant vers la satisfaction, et qui, une fois satisfait, se dissipe successivement dans des vibrations de plus en plus faibles. La même chose se rencontre aussi, mais fort obscurément dans l'odorat. De même que, dans l'homme sensible, la marche de l'impression, avec son degré, son élévation et sa diminution alternatifs, sa pure et pleine harmonie, si j'ose m'exprimer ainsi, est ce qu'il y a de plus attrayant, et est plus attrayant que ce qui en fait l'objet même, tant bien entendu que l'on oublie que c'est surtout la nature de l'objet qui détermine le degré, et plus encore l'harmonie de cette marche. Et de même que l'homme sensible, pareil au printemps qui fait éclore les fleurs, est précisément le spectacle le plus intéressant. De même, l'homme cherche, pour ainsi dire, cette image de son impression, plus que toute autre chose, dans les beaux-arts. C'est ainsi que la peinture et la plastique même s'approprient cette image de la Madone de Guido Reni, ne se referment pas, pour ainsi dire, dans les limites d'un instant fugitif. Les muscles tendus du gladiateur de Borghese annoncent le coup qu'il est prêt à porter. La poésie utilise cette technique encore à un plus haut degré. Sans vouloir parler ici spécialement du rang des beaux-arts, qu'il me soit permis d'ajouter encore seulement quelques mots pour mieux exposer mon idée. Les beaux-arts produisent une double action que l'on trouve toujours réunie dans chaque art, mais que dans chacun d'eux on rencontre combinée d'une manière fort diverse. Les beaux-arts fournissent directement les idées, ou bien ils excitent la sensibilité. Ils donnent le ton à l'âme, ou, si l'expression ne paraît pas trop maniérée, ils enrichissent et élèvent davantage sa force. Plus l'une de ces influences tire secours de l'autre, plus elle affaiblit sa propre impression. C'est la poésie qui le mieux, et le plus complètement, les réunit l'une et l'autre. Pour cette même raison, elle est d'un côté le plus parfait, mais de l'autre côté aussi le plus faible des beaux-arts. Tandis qu'elle représente les objets moins vivement que la peinture et la plastique, elle parle à la sensibilité avec moins d'insistance que le chant et la musique. Mais on oublie facilement ce défaut. Car, sans compter la multiplicité de ces faces que l'on vient de noter, elle touche de plus près le moi intérieur et vrai de l'homme. Elle couvre la pensée comme le sentiment du plus souple manteau. Les sensations qui agissent énergiquement, car c'est uniquement pour les expliquer que je parle ici, des beaux-arts agissent encore de façon diverse, en partie suivant que leur marche est plus harmonique, en partie suivant que leurs éléments mêmes, pour ainsi dire leur matière, saisissent plus fortement l'âme. C'est ainsi que la voix humaine, quand elle est juste et belle, a plus d'effet qu'un instrument inanimé. Mais rien ne nous touche de plus près que notre propre sensation corporelle. Ainsi, chaque fois que celle-ci participe à l'œuvre, l'effet sur l'homme est le plus grand. Toutefois, comme la force disproportionnée de la matière supprime en quelque sorte la délicatesse de la forme, cela se produit aussi souvent dans ce contexte, et il doit donc exister entre elles deux un juste rapport. En cas d'un déséquilibre, elles peuvent se balancer soit par une augmentation de force d'un côté, soit par un affaiblissement de l'autre côté. Cependant, il est toujours mauvais de procéder par l'affaiblissement, à moins que la force soit artificielle, point naturel. Là où elle n'est pas artificielle, que l'on ne la limite jamais. Qu'elle se brise plutôt par elle-même que de dépérir lentement. C'en est assez sur ce sujet. J'espère avoir suffisamment expliqué mon idée, tout en avouant volontiers l'embarras où je me trouve dans cette étude. Car, d'une part, l'intérêt du sujet et l'impossibilité d'emprunter seulement les résultats nécessaires à d'autres livres, je n'en connais aucun, qui parle de mon point de vue, m'ont invité à m'étendre davantage. Et, d'un autre côté, la considération que ces idées ne s'y rattachent que comme accessoires, et non par elles-mêmes, m'a toujours ramené dans les limites convenables de mon sujet. Il me faut prier le lecteur de se rappeler cette excuse, en lisant également ce qui va suivre. Bien qu'il soit toujours impossible d'introduire en ces matières des distinctions absolument exclusives, je me suis efforcé jusqu'ici de ne parler de l'impression des sens que comme impression des sens. Mais un lien mystérieux unit le sensuel au non-sensuel. Et s'il n'est pas donné à nos yeux de voir ce lien, notre âme le devine. C'est à cette double nature du monde visible et du monde invisible, c'est au désir ardent inné, qui nous pousse vers le second, et au sentiment du doux et impérieux besoin que nous avons du premier, que nous devons tous les systèmes philosophiques logiques, qui proviennent réellement de l'essence de notre nature. De même en est-ce les rêveries les plus démunies de sens. Le travail continue, tendant à unir ces deux aspirations, de telle sorte que chacune d'elles fasse aussi peu que possible tort à l'autre, m'a toujours paru être le vrai but de la sagesse humaine. Il est impossible de méconnaître cet universel sentiment esthétique, qui fait que pour nous, le sensuel est le vêtement du spirituel, et que le spirituel est le principe stimulant du monde des sens. L'étude perpétuelle de cette science de la physionomie de la nature distingue l'homme vraiment digne de ce nom. Car il n'est rien qui ait une influence aussi étendue sur le caractère entier que l'expression du non-sensuel dans le sensuel, du sublime, du simple, du beau, dans toutes les œuvres de la nature et dans toutes les productions artistiques qui nous entourent. Et ici encore apparaît la différence qui existe entre les impressions qui agissent énergiquement et toutes les autres impressions sensitives. Si le suprême effort de tout le labeur humain vise à découvrir, à nourrir, à reproduire l'être unique, vraiment existant, quoique dans sa forme originelle, il soit éternellement invisible, à l'intérieur de nous-mêmes et en autrui, si c'est seulement cela, dont le pressentiment rend chacun de ces symboles si chers, et si sacrés pour nous, alors nous faisons un pas vers lui, quand nous contemplons l'image de son énergie éternellement active. Nous parlons avec lui, pour ainsi dire, dans une langue lourde et souvent incomprise, mais aussi, souvent surprenante, par le pressentiment le plus certain de la vérité, bien que la forme, c'est-à-dire encore, si j'ose employer cette expression, l'image de cette énergie, soit plus éloignée de la vérité. C'est, sinon uniquement, du moins principalement sur ce fond que fleurit le beau et que s'élève encore davantage le sublime, qui transporte les hommes encore plus près de la divinité. La nécessité pour l'homme de trouver dans un objet un plaisir pur et éloigné de tout objectif, sans même qu'il s'en rende compte, lui prouve qu'il tire en quelque sorte sa descendance de l'être invisible, et qu'il se rattache à lui par un lien de parenté. Et le sentiment de son inadéquation avec l'être suprême relie, de la manière la plus humainement divine, la grandeur infinie à l'humilité dévouée. Sans le beau, l'amour des choses pour elles-mêmes manquerait à l'homme, et sans le sublime, l'obéissance qui dédaigne la récompense, et ne connaît pas la crainte vile. L'étude du beau donne le goût. L'étude du sublime donne la grandeur bien proportionnée. À supposer toutefois qu'une telle étude existe, et que le sentiment et l'expression du sublime ne soient pas seulement le fruit du génie. Mais le goût seul, qui doit toujours avoir pour base la grandeur, car seulement ce qui est grand a besoin de proportion, et ce qui est puissant, de conservation, le goût seul unit tous les tons de l'être accordés en une harmonie charmante. Ainsi, il donne à toutes nos impressions, même purement spirituelles, et à tous nos penchants, quelque chose de mesuré, de soutenu, de dirigé vers un point. Là où le goût n'existe pas, les appétits sensuels sont sauvages et effrénés, les études scientifiques peuvent être subtiles et profondes, mais elles n'ont ni délicatesse, ni poli, ni fécondité dans l'application. Sans le goût, la profondeur de l'esprit, comme l'abondance du savoir, est généralement frappée de mort et de stérilité. Sans lui, la noblesse et la force de la volonté morale, elles-mêmes sont âpres et dépourvues de tout salut persuasif et réchauffant. Rechercher et produire, c'est là que tendent, ou du moins c'est à cela que se rapportent, plus ou moins directement, toutes les occupations des hommes. La recherche, pour atteindre les raisons des choses, ou les dernières limites de la raison, requiert, outre la profondeur, une variété de richesses, et une chaleur d'esprit intérieur, un effort des facultés humaines réunies. Le philosophe purement analytique atteindra peut-être son but ultime par les simples opérations de la raison, non seulement calme, mais froide. Mais pour découvrir le lien qui relie des propositions synthétiques, il faut une vraie profondeur, il faut un esprit qui ait appris à donner des forces équivalentes à toutes ses facultés. Ainsi la profondeur jamais dépassée, comme on peut sans doute dire de Kant, sera encore souvent accusée d'extravagance, dans sa morale et son esthétique, comme cela a déjà été le cas. S'il m'est permis de l'avouer, quelques rares passages me paraissent être dans ce cas. Je citerai comme exemple la signification des couleurs de l'arc-en-ciel, dans la critique du jugement 21, Lev Kurli Brackett. Critique du jugement, Berlin, 1793, deuxième édition, p. 172. Kant dit en effet que les modifications de la lumière dans la production des couleurs est un langage que la nature nous offre et qui lui paraît avoir le sens le plus élevé. Ainsi, la couleur blanche de lys conduit notre esprit vers les idées d'innocence et, suivant l'ordre des sept couleurs, depuis le rouge jusqu'au violet, vers l'idée. 1 degré de grandeur. 2 degrés de hardiesse. 3 degrés de franchise. 4 degrés de sympathie. 5 degrés de modestie. 6 degrés de constance. 7 degrés de tendresse. Mais la faute en est exclusivement au peu de profondeur de mes facultés intellectuelles. Si je pouvais ici poursuivre plus loin ces idées, j'aurais certainement à m'affronter à la question, sans doute extrêmement difficile, mais tout aussi intéressante, de savoir quelle différence existe entre le perfectionnement intellectuel du métaphysicien et du poète. Et si un examen, complet et répété, ne renversait pas sur ce point les conséquences de la théorie, qui a été jusqu'ici la mienne, je limiterai cette différence sur le seul fait que le philosophe ne s'occupe que des perceptions, le poète que des sensations. À part cela, tous deux nécessitent le même niveau et la même culture des facultés intellectuelles. Mais ceci me détournerait trop de mon but actuel, et j'ose espérer d'avoir suffisamment montré, par les quelques raisons exprimées plus haut, que pour former même le plus calme des penseurs, les jouissances des sens et de l'imagination doivent fréquemment avoir caressé son âme. Mais passons des études transcendantales aux études psychologiques, où l'homme, tel qu'il se présente, devient l'objet de notre étude. Alors comment se ferait-il que l'humanité, cette espèce si riche en formes variées, ne fût pas comprise le plus profondément et dépeinte avec le plus de vérité et de vie, par celui à qui, par ses propres sensations, ne sont étrangères que les plus rares de ses formes. Il suit de là que l'homme ainsi formé apparaît dans sa plus grande beauté quand il entre dans la vie pratique, quand il rend fertile en créations intérieures et extérieures tout ce qu'il a amassé en lui. L'analogie qui existe entre les lois de la nature plastique et celle de la création intellectuelle a déjà été observée par l'œil d'un homme de 22, Lev Curly (22F). De Dalberg, Organisation et Invention. Et elle a été prouvée par des observations pertinentes. Cependant, une déduction encore plus intéressante aurait peut-être été possible. Au lieu de se lancer à la poursuite des lois impénétrables du développement du germe, la psychologie aurait reçu un enseignement peut-être plus riche si la création intellectuelle avait été représentée, pour ainsi dire, comme une plus fine flore de la production corporelle. Parlons d'abord de ce qui paraît être dans la vie morale l'œuvre exclusive de la froide raison. Seule l'idée du sublime fait qu'il est possible d'obéir à la loi absolue et générale, d'une manière humaine certes, par l'intermédiaire du sentiment, et pourtant d'une manière divinement désintéressée par l'absence de considération de la félicité ou du malheur. Le respect créé par le sentiment de la disproportion des forces humaines avec la loi morale, par la conscience profonde que le plus vertueux n'est que celui qui sent le mieux en lui, combien cette loi est inaccessible, tant elle est haut placée. Et cette impression ne paraît enveloppée du vêtement matériel que juste ce qu'il faut pour que nos yeux ne soient pas aveuglés par l'éclat de la pure lumière. Si la loi morale nous oblige à considérer tout homme comme un but en soi, à elle s'unit le sentiment du beau, qui donne volontiers à toute poussière la vie et la joie de se sentir en possession d'une existence propre. Qui saisit et enveloppe l'homme d'une manière d'autant plus belle et complète, que, indépendant de l'idée, ce sentiment du beau n'est pas limité par la petitesse du nombre des signes, que l'idée peut seule comprendre, et encore isolément et séparément. L'intervention du sentiment du beau paraît nuire à la pureté de la volonté morale. Cela pourrait être, et cela serait en effet, si ce sentiment devait être le véritable mobile de l'homme vers la vertu. Mais son devoir doit seulement être de découvrir pour la loi morale des applications plus variées, qui auraient échappé à la raison froide et par cela même grossière. Et il doit bénéficier du droit de procurer les plus doux sentiments à l'homme. En effet, il est défendu à celui-ci, non de recevoir la félicité, qui est étroitement jumelée à la vertu, mais d'agir vertueusement, seulement en vue de cette félicité. Plus je réfléchis sur ce sujet, moins la différence que j'observe ici me paraît être une pure subtilité, ou une rêverie. L'homme génie aspire à la jouissance. L'homme croit que la vertu est éternellement liée à la félicité, même au milieu des circonstances les plus défavorables. Mais pourtant son âme est capable de comprendre la grandeur de la loi morale. Son âme ne peut pas échapper à la force par laquelle cette grandeur l'oblige à agir, et, pénétrée de ce seul sentiment, elle agit sans se préoccuper de la jouissance, pour la seule raison qu'elle ne perd jamais l'entière conscience, du fait que l'idée de tous les maux possibles n'obtiendrait point d'elle un autre comportement. Seulement il est certain que l'âme n'arrive à cette force que par une seule voie, qui ressemble à celle dont je parle plus haut. Seulement par une puissante impulsion intérieure, et par une dispute extérieure pleine de diversité. Toute force, comme la matière, vient des sens. Et, quoique très éloignée de sa racine, elle ne cesse jamais de s'appuyer dessus, si je puis ainsi parler. Donc, celui qui s'efforce d'élever et de grandir ses facultés, de les rajeunir par une jouissance fréquente. Celui qui use souvent de la force de son caractère, pour rester indépendant de la sensualité. Celui qui s'efforce d'unir cette indépendance à la plus haute sensibilité. Celui dont la raison, droite et profonde, cherche sans cesse la vérité. Celui en qui un juste et délicat sentiment du beau ne laisse passer inaperçu aucune forme charmante. Celui que son ardeur pousse à faire entrer en soi les impressions du dehors et à les utiliser pour de nouvelles productions, à fondre toute beauté dans son individualité et, en unissant son être avec tout ce qui est beau, à engendrer une beauté nouvelle. Celui-là peut nourrir la douce croyance qu'il est dans le droit chemin, et qu'il se rapproche de l'idéal même que l'imagination humaine la plus hardie ose se retracer. Par ce tableau assez étranger aux études politiques, mais nécessaire pour la déduction de mes idées, j'ai essayé de montrer comment la sensualité pénètre de ses influences salutaires toute la vie et toutes les occupations de l'homme. Acquérir pour elle la liberté et le respect, tel a été mon but. Toutefois, je ne dois pas oublier que la sensualité est aussi la source d'une foule de maux physiques et moraux. Même quand elle est honnête, elle n'est salutaire que lorsqu'elle est dans un juste rapport avec l'exercice des facultés intellectuelles, car si elle l'emporte, elle prend aisément un ascendant pernicieux. Alors la joie humaine se change en jouissance bestiale. Le goût s'oblitère ou prend des directions contre nature. À propos de ce dernier point, je ne puis m'empêcher, surtout par rapport à certaines critiques partiales, de remarquer encore que ces mots ne désignent point ce qui n'atteint pas directement tel ou tel but de la nature, mais ce qui trahit le but général que la nature donne à l'homme. Ce but est de faire sans relâche avancer l'être humain vers une perfection plus élevée, et surtout, par suite, d'unir indissolublement ses facultés sensibles et pensantes, en leur donnant des mesures d'énergie équilibrées. Or, il peut naître un déséquilibre entre la manière dont l'homme cultive, et, en général, met en action ses facultés, et entre les moyens d'action et de jouissance que sa situation lui offre. Cette disproportion est une nouvelle source de maux. Suivant les principes développés précédemment, il n'est toutefois pas permis à l'État d'agir sur la situation des citoyens, en vue de certains desseins positifs. Cette situation n'a donc pas de forme déterminée et nécessaire. Plus grande est sa liberté, plus elle diminue ce manque d'harmonie. Car dans cette liberté même, elle tire sa direction principalement de la façon de penser et d'agir des citoyens. Et pourtant le danger, qui subsiste toujours et qui n'est pas sans importance, pourrait réveiller l'idée de la nécessité de combattre la corruption des mœurs par des lois et des institutions politiques. Cependant, en supposant que ces lois et ces institutions fussent vraiment efficaces, Leur influence n'augmenterait que dans la mesure de leurs inconvénients. Un État dans lequel on userait de pareils procédés, pour forcer ou pousser les citoyens à suivre les meilleures lois, pourrait être tranquille, paisible, prospère. Mais ce ne serait jamais, à mes yeux, qu'un troupeau d'esclaves entretenus. Ce ne serait point une réunion d'hommes libres, qui ne sont enchaînés que lorsqu'ils dépassent les bornes du droit. Sans doute, il existe bien des moyens de produire certaines actions ou certaines mentalités. Mais aucun ne conduit à la vraie perfection morale. L'impulsion matérielle donnée pour arriver à certains actes, ou la nécessité imposée de s'en abstenir, produisent l'habitude. Par l'habitude, le plaisir, qui d'abord était attaché à cette impulsion elle-même, est transposé à l'acte lui-même, ou le penchant, qui d'abord ne se taisait que devant la nécessité, est entièrement détruit. Ainsi l'homme est conduit à des actes vertueux, et, dans une certaine limite, à une mentalité vertueuse. Mais la force de son âme ne sera pas augmentée. Ses idées sur ses fins et sa valeur ne s'en éclaireront point. Sa volonté de vaincre le penchant qui le domine ne se fortifiera point. Par suite, il ne gagne rien du côté de la vraie et réelle perfection. Par conséquent, celui qui voudra vraiment instruire l'homme, au lieu de le tirer vers des buts extérieurs, ne se servira jamais de ses moyens. Car, sans compter que la contrainte et la direction ne produisent jamais la vertu, elles diminuent encore toujours la force. Que sont les mœurs sans la force morale et sans la vertu? Et si grand que puisse être le mal de la corruption des mœurs, il n'est même pas dépourvu de conséquences salutaires. C'est par les extrêmes que l'homme arrive forcément au sentier moyen de la sagesse et de la vertu. Les extrêmes, comme les vastes corps qui brillent dans les profondeurs de l'espace, agissent au loin. Pour fournir du sang aux plus petites veines du corps, il faut qu'il y en ait en abondance dans les grosses. Vouloir bouleverser en cela l'ordre de la nature, c'est provoquer le mal moral pour prévenir le mal physique. Mais à mon avis, il n'est pas vrai non plus que le danger de la corruption soit si grand et si menaçant. Et bien que l'on ait déjà dit beaucoup pour justifier cette proposition, les remarques suivantes serviront encore à l'établir plus amplement. Un degré, l'homme tend de lui-même vers la bienfaisance plus que vers l'égoïsme. Même l'histoire des sauvages le démontre. Les vertus domestiques ont quelque chose de si sympathique. Les vertus publiques du citoyen ont quelque chose de si grand et de si entraînant, que l'homme, aussi primitif qu'il soit, résiste rarement contre le charme qui est en elles. De degré la liberté augmente la force et entraîne toujours à sa suite, comme tout accroissement de force, une sorte de disposition libérale. La contrainte étouffe la force et conduit à tous les désirs égoïstes, ainsi qu'à tous les vils artifices de la faiblesse. La contrainte empêche peut-être quelques fautes, mais elle enlève aussi leur beauté aux nobles actions. La liberté occasionne peut-être quelques fautes, mais elle donne au vice lui-même une apparence moins ignoble. 3 degrés, l'homme laissé à lui-même arrive plus difficilement aux vrais principes. Mais ces principes se manifestent d'une manière indestructible dans sa façon d'agir. Celui qu'on dirige suivant un système intentionnel les reçoit plus aisément. Mais il cède le pas à son énergie, quoique affaiblie. 4 degrés, toutes les prescriptions de l'État, en cherchant à unir des intérêts divers et contradictoires, causent des collisions. Ces collisions amènent un manque d'harmonie entre les désirs et le pouvoir des hommes. De là des délits. Donc plus l'État est oisif, si je puis ainsi parler, moins le nombre des délits est grand. S'il était possible, surtout dans des cas concrets, de compter exactement les maux qu'occasionnent les ordonnances de police et ce qu'elles empêchent, on trouverait toujours que le nombre des premiers surpasse celui des seconds. 5 degrés jamais encore, on a étudié, au point de vue pratique et d'une manière suffisante, la puissance énorme qu'aurait la poursuite sévère de toutes les infractions réellement commises, la justice, la bonne mesure, la non-rémissibilité de la peine, et, par suite, la rareté de l'impunité. Je crois maintenant avoir suffisamment démontré, pour mon dessein, combien est dangereux tout effort de l'État cherchant à combattre, ou seulement à prévenir la corruption des mœurs, pourvu qu'elle ne porte pas directement atteinte aux droits d'autrui. Combien peu, on doit en attendre de conséquences salutaires sur la moralité elle-même, et combien une pareille action, exercée sur le caractère du peuple, est peu nécessaire, même pour le seul maintien de la sûreté. Il faut maintenant y réunir les raisons développées au commencement de ce chapitre, pour combattre toute action de l'État dirigée vers certains buts positifs, et, qui sont d'autant plus valables ici que l'homme moral ressent plus profondément les entraves qu'on lui impose. Et il ne faut pas oublier non plus que, s'il existe une espèce de progrès qui doit sa plus grande beauté à la liberté, c'est le progrès des mœurs et du caractère. Alors, on ne pourra plus douter de la vérité du principe suivant, à savoir que l'État doit s'abstenir entièrement de tout travail tendant à agir directement ou indirectement sur les mœurs et le caractère de la nation, si ce n'est lorsque ce travail se relie fatalement, comme conséquence naturelle et allant de soi, à ses autres prescriptions absolument nécessaires. Et que tout ce qui peut favoriser un tel dessein, principalement toute surveillance exercée sur l'éducation, l'organisation religieuse, les lois concernant le luxe, etc., est tout à fait en dehors des bornes de son action. C'était de l'amélioration des mœurs. Fin du chapitre 8.